À Rencontre spirituelle aujourd'hui, le Père Jacques de Jésus, cette vedette d'un film, oui, dans un sens, c'est un martyr quand même. Un carme qui a été tué à petit feu par les nazis en 1945, justement, à la fin de la guerre, pour avoir sauvé des enfants juifs dans son collège. Il était donc un carme, directeur d'un collège assez récent de carme à Avon. C'était au bout du parc du château de Fontainebleau, Avon. C'est là que ça s'est déroulé. Et c'est un drame qui a servi à Louis Malle, ce fameux cinéaste, qui a écrit et réalisé ce drame il y a 10 ans, quoi. Un drame franco-allemand. On peut se le procurer dans les vidéoclubs et ça vaut la peine. C'est un des beaux films chrétiens catholiques, qui est un des plus beaux, à mon avis. C'est un film d'une heure trois quarts. Dans lequel figure une Québécoise dont on parlait beaucoup à l'époque, Francine Racette. Dans le recueil des films de 1987 de l'Office des communications sociales, on écrit à un moment donné « Aucune fausse note dans ce film ne vient déparer un récit mené avec une sûreté exemplaire à l'aide de touches précises et nuancées. Une leçon d'humanisme se dégage insensiblement de l'ensemble à travers un drame de guerre judicieusement évoqué. Ils ajoutent « L'interprétation est parfaite de naturel. » C'est absolument phénoménal de voir ces jeunes, car ce sont des enfants, qui jouent de façon impeccable, impeccable. Y compris le petit juif qui a vraiment c'est son vrai nom, Bonnet, B-O-2-N-E-T. Mais tout tourne autour du père Jacques, Jacques de Jésus, qui est né le 29 janvier 1900, et il y a donc aujourd'hui 98 ans et qui est mort en 1945, tout jeune. Il est né dans une cité ouvrière de Barentin. Pour vous le situer, c'est à 18 kilomètres de Rouen, donc en Normandie, donc... Ça vous rappelle Jeanne d'Arc, ça peut vous rappeler Sainte-Thérèse de Lisieux. C'est sur la route du chemin de fer du Havre, le Havre, où est mort l'abbé Coist, il y a quelques jours. Michel Coist, très grand prédicateur, très grand auteur spirituel. Les parents du petit Louis-Lucien, les Bunel, ont eu 8 enfants. Il était le 4e, ils étaient très pauvres. Le père était un simple ouvrier qui travaillait dans une filature. Il gagnait 3,50 francs par jour. C'est pas beaucoup. Aujourd'hui, ça vaut 1 $. Mais je ne sais pas ce que ça valait dans le temps. Mais si l'on était pauvre dans cette famille des Bunel, pas Bunuel, mais bien Bunel, B-U-N-E-L, on était pieux dans cette famille. Le père, qui a commis tous les jours à la fin de sa vie, récitait déjà son chapelet en allant au travail. Et tous les enfants ont appris à prier sur les genoux de leur mère. À l'âge d'un an, Lucien est condamné par les médecins. Et au mépris de la prudence humaine, la mère provoque les sarcasmes de quelques voisins. Parce que elle et son mari vont avec le petit Lucien, tout jeune, bébé, en pèlerinage à Saint-Germain, au-delà de Fréville. Il pleut, il vente. Mais l'enfant revient guéri. Alors la mère fait une prière qui est historique, elle l'a rapportée, car c'est tout récent ces choses-là finalement. « Mon Dieu, laissez-le-moi jusqu'à 20 ans. Après, prenez-le, il vous appartient. Mais donnez-moi la joie de vous l'offrir quand il sera grand. » Et c'est curieux, cette parole de Madame Bunel, elle va la tenir doublement. Son fils va être prêtre, puis en 1945... lorsqu'elle apprend que son Lucien est mort, à l'hôpital de Linz, en Autriche, elle garde le silence. Puis elle met la photo du père Jacques, son fils, à côté de celle d'Alfred, l'aîné de ses fils qui disparut au cours de la guerre 14-18, lui, tout jeune. Elle dispose des fleurs blanches dans un verre. Elle est pauvre. Puis elle dit enfin à genoux, « Mon Dieu, je vous l'avais promis. » Vous me l'avez laissé plus longtemps encore que je ne l'espérais. Que votre volonté soit faite. Or, Lucien a 5 ans quand il déclare d'un ton assez péremptoire : « Tu sais, maman, quand je serai grand, je n'irai pas à l'école à Alfred. » L'école de son frère aîné. L'école communale. Alors elle lui dit : « Où iras-tu ? » Il dit : « À l'école de Monsieur le curé, car quand je serai grand comme Monsieur le curé. » Alors il organise des processions. Comme bien des enfants, jusqu'à mon enfance, on faisait ça, on organisait des professions. Il fait des sermons. Il faut bien, dit-il, que j'apprenne à parler aux hommes. Il le confie à sa sœur, d'ailleurs. Il dit : « Quand plus tard je parlerai du bon Dieu, tout le monde y croira. » Mon petit-fils qui disait : « Quand je serai prêtre, ça sera intéressant, mes messes. » Le voilà donc au petit séminaire. Et pour 7 ans, il est doué d'une nature assez riche. Il lui faut des efforts longs et pénibles, peut-être, pour maîtriser ses défauts d'humeur, hein, puis d'orgueil, puis de vignâtreté. Ça menace de le perdre. Il y a des traits de caractère qui sont parfois étranges. Il se montre ombrageux, critique, hargneux même, gouailleur, un peu dans le genre des petits bonhommes de Montmartre en France, que vous avez peut-être déjà vu, ou disons dans le centre-ville, vous savez, les petits têtus. Hein. Il est entêté, d'ailleurs. Mais il est taquin. Il est moqueur. Il est drôle. Il est malicieux. C'est un être paradoxal. Il y a quelque chose d'un peu révolutionnaire chez lui. Il est très personnel. Et Dieu, avec toute cette belle matière, va en faire un saint. C'est un type à la Rimbaud, d'une certaine façon. Je vous ai déjà parlé de Rimbaud. Voilà Charles de Foucault, dont je vous ai aussi parlé 2 fois. C'est un risque-tout qui est fait pour les abîmes. C'était une volonté forte, presque farouche, des traits énergiques, une parole raide un peu, à la façon de certains Français, vous savez, des gestes brusques. En famille, au village, il aimait aller à l'église et prier seul, longuement et sans bruit. Malgré tous ses traits de caractère, voyez-vous, il y avait des belles choses en lui. Il avait déjà une prière contemplative, et au séminaire, d'ailleurs, sa piété va se fortifier en profondeur. C'est une forte tête, peu commode à discipliner. Mais Dieu le travaille. Et après 6 mois de grand séminaire, de 1919 à 1920, là, en octobre à mars, après ces 6 mois, c'est le service militaire. Alors il fait sensation. À la caserne, il domine les jeunes là, qui sont un peu turbulents. Il devient assez vite maréchal des logis. Hein? C'est lui qui conduit un peu. Sous son règne, il n'y a pas de coulage. Hein? Et puis, ce qu'il faut pour nourrir ses compagnons est surabondant. Il s'impose. Il rayonne Dieu, disent les autres. Et on l'aime beaucoup. Il est tout jeune, séminariste, quoi. Au village, Lucien Bunel fonde un patronage tout près de là où il est stationné, à Montlignon, en Seine-et-Oise. Des chants, des prières, des jeux variés. Il organise des promenades en forêt. La réussite est complète, hein, il est déjà qualifié de saint. Tout jeune. Aussi bien par ses camarades soldats que par la population de Montlignon. Les enfants se disputent pour lui prendre la main, puis lui font un véritable cortège. Finalement, de mars 1922, vous pouvez toujours calculer, il a 22 ans, puis il a 24 ans, il est né en 1900, c'est commode. Hein? Alors, de mars 1922 à juillet 24, l'abbé Bunel, le jeune abbé Bunel, est élève au grand séminaire de Rouen. On est satisfait de lui, mais lui, il est inquiet. La grâce ne détruit pas la nature, hein? La grâce la développe et puis ennoblit la nature. Or, sa nature est riche et complexe. Et ce Lucien Bunel, le futur père Jacques, aspire à la vie contemplative, ascétique et cloîtrée. Il rêve de la trappe, il veut la trappe. Être trappiste, être cistercien, moine contemplatif. Du 13 juillet au 12 août, donc un mois, en 1922, on lui donne l'habit monastique des trappistes à la trappe de Notre-Dame du Port-Salut. Il se soumet à la vie rigoureuse de la communauté. C'est simplement un essai. Il fait un nouveau stage d'un mois l'été suivant, au même monastère. Il garde pas la mesure. Il en revient desséché. Ça va pas. Cette nostalgie de la solitude, quand même, ça ne le quittera jamais de sa vie. Mais l'abbé s'en fait un devoir de conscience, puis il se penche avec zèle, avec amour sur l'enfance, sur la jeunesse ouvrière, au cours des étés 22, 23, 24. C'est la jeunesse qu'il veut sauver. Et ce mystique a été un merveilleux organisateur. L'abbé Bunel est envoyé en octobre 1924 comme surveillant dans une institution Saint-Joseph du Havre, là où était curé Michel Coast. Je vous en parle parce que les gens l'aiment tellement, Michel Coast. Il vient de mourir, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, l'abbé Bunel va faire quasi seul, vaille que vaille, mais de son mieux, là, sa dernière année de théologie avant d'être ordonné prêtre à 25 ans, en juillet 1925. À Saint-Joseph du Havre, jusqu'en 31, 6 ans, il sera tout. Il va faire toutes sortes de choses. Il va être surveillant, directeur de conscience, prédicateur qui s'adresse aux auditoires les plus variés, parle aux jeunes filles, aux dames, aux hommes, les ouvriers, les bourgeois, au Havre même, puis dans le diocèse, puis hors du diocèse. Il est à la fois aumônier d'orphelines, de scouts et de louveteaux, directeur de cercles d'études, de colonies de vacances. C'est inouï, ce prêtre, quand on voit tout ce qu'il fait. Mais il y en a des prêtres ici qui font la même chose. Il est en Angleterre avec sa troupe de scouts. Oui, il les amène en Angleterre, puis en Italie plusieurs fois pour des pèlerinages à Rome, à Assise, à Florence. Il est en retraite à la Trappe ou au Carmel. Il discute de théologie avec un franciscain, puis il approfondit ses traités de dogme au couvent des Dominicains, car il veut toujours apprendre davantage. C'est une espèce de petite bombe atomique, ce jeune prêtre. Mais spirituel, évidemment. Il en a l'éclat, mais parfois aussi la violence, hein. Des fois, on le répète, on dit, c'est un type formidable, mais... en étude, on ne peut pas le chahuter quand il surveille l'étude. Son regard le dispense de punir. Il suffit qu'il regarde. En classe, il est passionnant. Son enseignement est vivant, direct. En promenade, les jours de congé, il y a la mer, les bois, les usines, les ports, les églises, les abbayes, il fait tout visiter. Il les amène au Havre, à Rouen, à Caen, Côte-Bec, à Jumièges, les ruines de l'abbaye de Jumièges, tout près de l'abbaye de Saint-Vendry, puis il les amène chez les bénédictins de Saint-Vendry, qui ont fondé notre abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Et les enfants sont émerveillés, c'est un véritable cinéma sonore et parlant que d'accompagner cet abbé. Cette activité, c'est pourtant pas de l'agitation. Il se possède tout le temps. Il est recueilli. Il lui arrive de faire sonner son réveil, d'ailleurs, à 2 heures du matin, pour réciter matine et laude, comme les trappistes. Et quand il va prêcher, il ne craint pas d'assommer l'auditoire, hein, il veut durer un résultat. Il va jusqu'à traiter de pourriture dorée les habitués à la messe de 11 heures. Il ne va pas de même, C'est un prédicateur très demandé, très écouté. Et quelqu'un disait des abbés Bunel, il en faut de temps en temps pour secouer les vieilles défroques, pour casser les vieilles vaisselles. Mais si la vaisselle casse, c'est qu'elle était fêlée. Et son activité apostolique découle d'une vie de piété profonde. Hein, tôt le matin ou tard le soir, on le voit en oraison à la tribune de la chapelle. Il demeure fidèle aux résolutions qu'il a prises pour son sous-diaconat au grand séminaire de Rouen, alors qu'il écrit « Oh mon Dieu !» Ce sont des traits de flamme qu'il faudrait transcrire sur ce papier pour traduire le feu de mes sentiments. Tu vois, Seigneur, et tu sais avec quelle ardeur je te désire, avec quelle passion j'aspire à te posséder, à te saisir, à t'étreindre. Ô mon Dieu, agis toi-même en moi, consume-moi dans ton amour infini en me prenant et en m'absorbant en toi, que ce jour béni du samedi 12 juillet 1924 soit vraiment une étape dans ma vie d'union avec toi. C'est la veille de son ordination au sous-diaconat. Comme vous savez, il sera ordonné prêtre à 25 ans. Alors, le jeune abbé Bunel est dévoré par le goût de la vie religieuse et puis il décide de se faire carme. Et il quitte donc l'archidiocèse de Rouen pour le noviciat des carmes. Il entre à Lille, dans le nord de la France, près de la Belgique, là, en septembre 1931. Donc, il a 31 ans. Il devient le Père Jacques de Jésus, sous la conduite spirituelle du fameux Père Louis de la Trinité, qui a écrit sa vie. C'est le futur amiral Thierry d'Argentlieu. Vous souvenez-vous de ça, les gens plus âgés? Oui, durant la guerre, le Père Louis de la Trinité est devenu l'amiral Thierry d'Argentlieu. Alors, Louis de la Trinité était maître de novice à ce moment-là. Un excellent maître des novices. Donc, de 1931 à 1934, il est au couvent des Carmes de Lille, et le père Jacques s'efface volontairement, il disparaît, il se tait. Il lui arrivait de se jeter à genoux dans sa cellule, et de se boucher les oreilles pour ne plus entendre l'écho d'un collège voisin ou des enfants qu'il aimait tellement. Totalement inconnu de lui, jouait dans la cour de récréation. Et cette vie recluse d'inaction lui pèse terriblement. Mais il est où Dieu le veut. Son oraison, comme Carme, se fait de plus en plus profonde. Il aime son ordre. Il s'en voudrait plus que jamais de toute médiocrité, comme de tout embourgeoisement. Mais c'était curieux, dessein de Dieu. L'abbé Bunel avait une vocation d'éducateur. Et son évêque lui avait dit, « Vous êtes né professeur. Vous avez la vocation de professeur. Mais s'il s'en va chez les Carmes, il n'y a pas de professeur là. » Or, le père Jacques avait sacrifié cette vocation en entrant au Carmel, qui n'est pas un ordre enseignant, donc. Et voilà qu'en avril 1934, il est nommé directeur fondateur d'un collège secondaire libre, donc catholique, placé sous le signe de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est que le vieil ordre du Carmel s'adapte au temps moderne. Il assouplit la formule traditionnelle du juvénat ou collège qui était réservé aux seuls futurs novices Carmes. Et le très révérend père Louis de la Trinité, donc, alors provincial, t'es devenu provincial, a jeté son dévolu sur le père Jacques pour cette création. Et le choix était heureux, la réussite va dépasser toute espérance. Il y a un professeur, M. Dulac, qui dit, somme toute, collège moderne. Eau, gaz, électricité. Et le père Jacques à tous les étages. Oui, le père Jacques à tous les étages, c'était vrai. C'était bien vrai, matériellement, moralement, intellectuellement, puis spirituellement, à tout point de vue. Il se promenait sans arrêt. Il surveillait toute la maison, s'occupait des lectures spirituelles, des exercices religieux, les entretiens personnels avec les enfants, un à un dans son bureau. Il professait les classes de français, de latin, de grec. S'occupait de jeux mouvementés dans la cour et dans la forêt, des grandes promenades, l'action catholique, la scola, les sports, le cheval, l'économa, la correspondance, les parloirs, que dire encore? Rien n'échappe à son dynamisme. Le collège catholique naissant, c'est lui. C'est tout lui. Il ne voulait ni cris, ni bousculades dans les corridors, ni disputes, ni bagarres dans la cour, ni gros mots, ni mains dans les poches. Il était exigeant. Celui qui met, disait-il, ses initiales sur un pupitre, en devient le propriétaire, il peut l'emporter chez lui s'il le désire, je remplace la planche à ses frais. Il disait aussi, cirez bien vos chaussures, je regarderai même les épaisseurs des talons. De la tenue, mes petits, de la politesse, et pas de mots d'argot. Pas de joie, quoi. Du caractère difficile de Lucien Bunel, ce petit dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est devenu le père Jacques, il reste encore quelques traces, même avec les professeurs. Et le père Jacques sait qu'il doit constamment prendre sur lui pour tempérer ses taquineries et ne froisser personne. Parfois, après une conversation, il disait, « Je ne vous ai pas fait de peine, je ne sais pas, je... » Il craignait d'avoir fait de la peine parce qu'il avait un tempérament parfois difficile. Il était jeune encore, il va mûrir. Alors, liberté, confiance, douceur. Telles furent, on peut dire, ses idées maîtresses en manière de pédagogie. De 1934 à 1939, au moment de la guerre. On insiste aimablement pour que j'indique les principes essentiels de notre action pédagogique à l'intérieur du collège catholique, disait-il lors d'une réunion de parents et d'élèves. Me voilà bien embarrassé. Il termine son petit discours en disant, « Pour dire cependant quelque chose qui vous soit utile, je résumerai le souci primordial de l'éducation en disant que l'éducation, la vraie, celle qui donne seule des résultats complets et définitifs, consiste à apprendre aux enfants à faire usage de leur liberté. » Alors, les hostilités de la drôle de guerre, comme on disait en 39, marquent une coupure dans la vie du petit collège qui est transformé en Croix-Rouge par suite de la mobilisation immédiate, ou éventuelle, de la quasi-unanimité des pères et des professeurs. Ils s'engagent, et sur le front de l'Est, le maréchal des logis, chef Bunel, comme il a déjà été maréchal des logis, et qui fait fonction d'adjudant, ben il n'est pas l'inférieur à lui-même. C'est un être particulier que ce père Bunel. que ce père Jacques. Il commandait de façon assez particulière en disant aux hommes « Tu serais bien gentil de », au lieu de dire « Faites ceci, faites cela ». Il avait acquis une grande délicatesse en étant calme. Il écrivait à un ami le 12 octobre 1939 « Ici, tout va, du moins avec les hommes, car je suis terriblement gêné par ceux des officiers qui sont des bien-pensants. Dans l'acception étroite du terme, j'ai horreur de cette pouillerie du catholicisme des bien-pensants. Il nous faut des bien-vivants, des catholiques bien-vivants. Entre-temps, je fais mon métier d'adjudant qui consiste à défendre les hommes contre l'action dissolvante de certains officiers tatillons et peu diligents, mais peu intelligents. Il est très remarquable que parmi les hommes qu'il fréquente à la batterie puis en captivité, ceux qui l'intéressent le plus sont des esprits révoltés et comme lui assoiffés de justice. Il adopte en général leur point de vue d'ailleurs, puis il se contente de marquer que l'Église catholique apporte la solution réelle à leurs préoccupations. C'est elle qui peut engendrer la justice si on veut être des catholiques vivants à l'intérieur de cette Église. L'esprit conservateur et bourgeois lui fait horreur. Le christianisme n'est pas pour lui qu'un dogme révélé, ni qu'une conception du monde. Moins encore une assurance pour l'au-delà. Il est aussi l'aiguillon, le catholicisme, qui doit pousser l'homme à créer plus de justice dans ce bas monde. Le père Jacques est prodigieusement admiré et aimé. Il est prisonnier de guerre à Lunéville, puis libéré par un subterfuge en décembre 1940. Alors il rouvre son collège en janvier 1941 avec une classe de sixième, puis l'autre de troisième. Il a beaucoup gagné en maturité, de plus en plus certain que la mort approche. Il sent qu'il sera peut-être arrêté à cause du sens de la justice et se dévoue sans compter. On a écrit à son sujet, toute la formation du collège aurait pu être fort fastidieuse, voire même impossible, n'eût été la sainteté rayonnante du père Jacques. Son brûlant amour pour le Christ transparaissait à travers toutes ses œuvres. Bien plus, c'était le Christ que nous voyons en lui. Il n'y avait qu'à le voir prier pour qu'aussitôt la prière nous vînt sur les lèvres. La formation religieuse, à fond. Ce n'était pas à proprement parler une formation, mais un rayonnement. Ses prières, dit un témoin, ces prières m'ont révélé tout au long de mon séjour à Avon combien ma foi était conventionnelle et artificielle. Puis j'ai prié dans son sens, et ce fut une révélation qu'il serait vain de décrire. Il suffit de dire qu'elle fut assez forte pour étayer solidement ma foi et en faire le principe dernier qui soutient et oriente ma vie à travers les embûches. Ce que je dois de plus précieux au père Jacques, m'avoir révélé Dieu, m'avoir montré l'amour et la vie. S'occupant de nous spirituellement, le père Jacques nous parlait souvent le soir après l'étude en prenant notre Seigneur pour exemple. Quel témoin de la foi! Le père Jacques veut donc former des chrétiens, des hommes, aux horizons larges, et dans ce but, que d'initiatives, que d'activités, que de zèle! Il amène les plus grands à Paris aux manifestations d'art, de musique, de peinture, de sculpture, de théâtre. Il n'hésite pas à étonner, à choquer peut-être certains visiteurs, en dirigeant lui-même ses élèves dans les musées à Paris, dans les expositions les plus variées. On l'a même vu, c'était un spectacle assez inusité, de voir ce moine, car il était toujours habillé en moine, n'est-ce pas, la bure brune des Carmes, entouré d'auditeurs attentifs, devant tel tableau moins que religieux, un peu dans le genre de cette religieuse qui vit en Angleterre, cette carmélite que l'on voit à la télévision, avez-vous déjà vu ça? Elle est tellement extraordinaire, qui explique les tableaux à travers le monde. Au collège, donc, ce sont des causeries, des interviews, des conférences sur les sujets les plus divers. Il invite toutes sortes de gens, chirurgiens, dentistes, un officier supérieur de l'école de guerre, des avocats, les médecins, des banquiers, des ingénieurs, ou bien même des ouvriers syndiqués, des missionnaires, etc. Les enfants sont captivés. Il est phénoménal comme éducateur. Le père Jacques disait un jour, en substance, au colonel de l'Armina, pendant l'occupation allemande, « Si j'étais fusillé, Est-ce que je ne lèguerai pas à mes élèves le meilleur des enseignements? Il avait effectivement, c'est assez étonnant, accueilli des élèves juifs, trois élèves juifs, dans son petit collège, comme on l'appelait. Ils sont arrivés au cours de l'année scolaire 42-43. Je donne les noms. Jean Bonnet, qui figure bien dans le film, d'ailleurs, en sixième. C'est un comédien, évidemment, un jeune acteur qui joue. Parce qu'ils ont été tués par les nazis, ces trois enfants-là. Jean Bonnet, Maurice Sabatier, qui lui était en cinquième, un peu plus jeune donc, et Jacques Dupré en seconde, tout petit. Jacques Dupré, vous voyez, ils ont des noms français. Bonnet, Sabatier, Dupré, sont des juifs. Et le petit Jacques Dupré, qui en fait... C'est-à-dire, ils sont plus vieux, en sixième, c'est au début, puis cinquième, ils remontent, et les autres, ils calculent à l'envers, n'est-ce pas? En seconde, Jacques Dupré, qui était un jeune homme, lui, je m'excuse, c'était l'aîné des trois, était encore, lui aussi, plus enfant que jeune homme, malgré tout. Et on s'est occupé d'eux pendant les vacances, y compris l'été 1943, et le père Jacques a rencontré l'héroïsme en accomplissant son devoir. C'est ce que dit son provincial, hein? Et son provincial disait, je le verrai toujours, venant me proposer d'héberger des enfants juifs. Et j'ai d'abord hésité à lui donner l'autorisation, mais sur une deuxième demande plus instante, là, réitérée quelques 15 jours après, ayant moi-même réfléchi davantage, puis constatant la nécessité où nous étions, comme catholiques, quoi, d'accueillir ces pauvres enfants, car personne ne voulait les prendre, c'était trop dangereux, risquer leur vie, hein. Alors le provincial dit, si nous ne voulions pas, en fait, les abandonner à la Gestapo, c'est-à-dire à la déportation en Pologne, à la mort par la torture. Alors je lui ai donné toute autorisation en lui affirmant que, quoi qu'il arrive, on aurait non seulement le mérite de la charité, mais encore, ce qui est précieux pour un religieux, celui de l'obéissance. Fais ce que doit, advienne que pourra. Nous étions pleinement d'accord. Et le collège était devenu un abri où les jeunes traqués, les jeunes juifs, puis bien d'autres traqués, bien d'autres, trouvaient momentanément un répit à tous ces problèmes de la vie clandestine traqués par les nazis. Et le dénouement tragique qui va mettre fin à cette activité héroïque du père Jacques était redouté de tous ceux qu'il connaissait bien. Mais lui, le père Jacques, ne s'en souciait guère. Lorsque quelques mois avant son arrestation, on lui faisait part d'appréhension, il a toujours montré un visage souriant et résigné, accompagné d'un geste qui voulait dire, un peu comme les musulmans, à la grâce de Dieu, n'est-ce pas, Inch'Allah, à la grâce de Dieu, la confiance. On a compris alors qu'il était inutile de l'inviter à la prudence, c'était un saint. Il avait fait par avance le sacrifice de sa vie pour sauver d'autres vies. En février 44, il apprend l'arrestation. Le nonce apostolique apprend l'arrestation du père Jacques. Et le nonce apostolique dit, le père Jacques a bien fait d'héberger des Israélites. Il a donné l'exemple et n'a fait que suivre celui du cardinal Gerlier. Et il ajoute, on reproche souvent aux ordres religieux, vouant l'obéissance au Saint-Siège, de manquer à cause de cela de sens national et patriotique. Vous avez été nombreux à démontrer par les faits l'inanité de cette objection. Parce que le Saint-Siège, à l'époque, ce Pie XII, je vous ai fait plusieurs émissions sur cette question, n'osait trop attaquer de front les nazis, comme ça a été fait d'ailleurs, malgré lui, en Hollande. Et le résultat, ça a été qu'en Hollande, les nazis ont tué plus de 400 religieux et religieuses d'origine juive, convertis au catholicisme, dont la bienheureuse Edith Stein. C'est le 15 janvier 44 que surviennent les événements. Le matin, rien n'aurait fait prévoir ce qui devait se dérouler. La journée commence dans le calme, les classes suivent leur train, avec le charme un peu monotone des collèges. Soudain, dans le couloir retentit un bruit de bottes. On entend les portes claquer. Les Allemands sont là. Par la porte de la classe de cinquième, qui vient de s'entrouvrir, petit bonhomme annonce, « Voilà les Fritz !» Immédiatement, entre un petit bonhomme en béret qui s'appelle Bonnet, le petit Bonnet dont je vous ai parlé tout à l'heure, lequel se lève aussitôt et sort. Il est 10h15. Une dénonciation circonstanciée avait donné toutes les précisions utiles. Les Allemands connaissaient les noms. En quatrième, le professeur M. Dulac fait une classe de grec. La porte s'ouvre. Un civil de la Gestapo fait irruption, puis il appelle M. Sabatier. C'est le petit Sabatier. Ce dernier se lève. Il sort lentement derrière l'Allemand. La porte se ferme, c'est fini. Ça s'est passé en quelques secondes. Un long silence. M. Dulac, le professeur, interrompt son cours. Et immobile, les bras tombés, il regarde ses élèves et il dit « Avez-vous compris ?» Oui, ils ont compris. Ils ne reverront plus jamais leurs camarades. Alors le professeur récite une prière avec ses élèves pour celui qui vient de partir. Mais il n'est plus capable d'enseigner. Les trois enfants sont arrêtés donc de cette façon. Et le collège entier, d'ailleurs, est gardé par des sentinelles. Et le téléphone a été coupé. Les Allemands sont partout. On vient arrêter le père Jacques lui-même au milieu d'un cours de français en classe de première et on le fait monter au premier étage dans la chambre d'un prêtre, un réfractaire camouflé, séminariste de Saint-Sulpice. Un jeune professeur, autre séminariste réfractaire aux nazis, quoi, est arrêté. Il réussit à sortir au grand désespoir de la sentinelle qui s'en aperçoit un moment après puis qui crie « Barty, Barty !» Mais il n'a pas de chance. Il traverse le jardin du couvent et sort par le portail de l'église pour tomber sur une autre sentinelle qui lui enjoint avec force coup de pied, coup de poing, de rentrer dans la souricière qu'est le collège. Et tout le jardin est gardé militairement. Hein. Un jeune domestique, juif, Maurice, caché là aussi, prévenu par le père André, réussit à se cacher dans une armoire de l'office. Pendant que la Gestapo commence la perquisition, puis il monte à l'infirmerie où il connaît une cachette plus sûre. Il s'introduit dans le placard d'une soupente, donnant sur la grande salle des malades. Il demande que l'on dispose à cet endroit pour en masquer l'entrée quelques bûches, les unes sur les autres. Alors on fait ça. La Gestapo monte peu après pour inspecter le local. À l'effroi des quatre jeunes élèves malades ou convalescents, ils habituent de l'endroit de l'infirmerie, alors... Un des policiers considère longuement les bûches. Il en dérange une ou deux du bout du pied, puis il se décide à redescendre. Oh là là, il y a un bon Dieu, comme on dit, pour Maurice. Et pour le père André, car... Le père André avait affirmé à la Gestapo qu'il était bien inutile de rechercher... Maurice, parti du collège depuis quelques jours. Et si on avait trouvé... Ce père Carme André aurait été fusillé. À 11h, la cloche sonne en fin de classe. Les élèves gagnent la cour. Les professeurs remontent vers leur chambre et apprennent avec l'arrestation du père Jacques, qui était seul dans la pièce où on l'avait conduit. Les autres détenus étaient ensemble dans la chambre sud du même corridor, près de ce qu'on appelle le carré des professeurs. Et là, on s'approche du père Jacques pour lui dire quelques mots. « On ne parle pas !» crie un Allemand. Posté non loin de là. Alors on lui serre la main en silence et à voix basse, on lui dit « Avez-vous besoin de quelque chose ?»« Merci, tout va bien. » Et il ajoute souriant « Je vais enfin pouvoir dormir et faire oraison. » Il y a deux grands élèves qui passent, peu après dans le couloir. « Continuez sans moi, mes enfants, » leur dit Père Jacques. Il y a deux professeurs qui réussissent à l'aider à faire son paquet. Et elle l'embrassait avant son départ, il dit encore « Je vous confie la maison ». Alors on comprend l'étonnement du chef de la Gestapo qui cherche sans la trouver la chambre de repos, comme il dit, c'est-à-dire la chambre à coucher, quoi, du père directeur, le père Jacques. « Mais où se repose donc ?» lui crie-t-il. Comment lui faire comprendre que le père ne connaît ni chambre personnelle ni repos? Le père couchait au dortoir dont il assurait la surveillance. Le bureau du père Jacques est l'objet d'une visite minutieuse en présence du père Ernest. On ne fouille heureusement aucune des chambres de professeurs. Les Allemands pénètrent aussi dans la procure et dans les classes. Puis pendant ce temps, dans la cour, les élèves se sont donné le mot d'ordre de jouer quand même avec cœur malgré les Allemands parce qu'il fait froid et humide ce jour-là et le jeu est très animé. Et à 11h30, le chef de la Gestapo donne l'ordre de à tout le monde, élèves, professeurs et personnels, de se rassembler au bas des marches. Et beaucoup parmi les enfants n'ont même pas le temps de reprendre leur veste enlevée par le jeu. Ils attraperont la grippe. Les enfants se rassemblent classe par classe, en colonne, devant les marches. Et les professeurs et le personnel derrière les élèves. Et le chef de la Gestapo déclare alors « 3 élèves juifs ont été arrêtés dans ce collège. Y a-t-il encore des juifs parmi vous ?» Ce à quoi les élèves répondent ensemble « Non ». Ce sont nos camarades, comme les autres, s'écrit un élève de seconde, un jeune noble germain. L'Allemand répond, vous n'êtes pas camarade avec un nègre, vous n'êtes pas camarade avec un juif. Quelle horreur, quel racisme, ce chez nazi. Alors, il y a des mouvements divers dans l'assistance, puis à ce moment, un autre policier qui revient de la procure avec les cartes d'alimentation des élèves et commence l'appel des noms par ordre alphabétique. Et le premier nommé se trouve être un petit de 6e. « Viens par là », lui dit l'Allemand. Il le place dos au mur contre la chapelle et le pauvre petit bonhomme n'y comprend rien. Il blêmit de peur. Il se demande peut-être quelles tortures vont lui être infligées pour lui arracher on ne sait quelle avue. Mais les autres sont appelés à leur tour et placés près de lui, ce qui le tranquillise. Et pendant cet interminable appel, descendent encadrés d'Allemands, évidemment, les 3 petits juifs, terrorisés, les yeux fixés à terre, une couverture sous le bras. Ils partent par la porte de la cour. À la sortie de la classe, ils avaient été maltraités, et le petit bonnet a dû monter l'escalier en recevant des coups de pied. La vue de leurs 3 camarades impressionne beaucoup les élèves. L'appel se poursuit. Ici se place un premier discours gestapo sur la nécessité de la discipline. Il les insulte. Puis la porte s'ouvre et le père Jacques apparaît. Suivi de 2 Allemands, l'un porte ses 2 couvertures roulées sous le bras. Le père Jacques, qui, un quart d'heure auparavant, dans la chambre, semblait très ému et très angoissé, paraît avoir retrouvé tout son calme. La prière fait des miracles. Il s'avance tranquillement, une valise à la main. Son béret brun, ils portent des bérets bruns pour aller avec leur bure brune, les carmes. Et son béret brun sur la tête. Puis avant de descendre les marches, il s'arrête. Il regarde les enfants, souriant, radieux, presque. Il leur crie joyeusement. Au revoir, les enfants. À bientôt. C'est le titre du film. « Au revoir, mon père !» répondent d'un seul cri les élèves, les professeurs. Et spontanément, tous se mettent à applaudir frénétiquement. Alors le chef de la Gestapo se retourne furieux et crie « Taisez-vous ! Taisez-vous ! Silence !» Et le père Jacques descend les marches, traverse lentement la cour, se dirige vers le petit escalier de la rue de la Charité. Le monte, regarde, et arrivé en haut, il exprime son affection pour toute la maison, tout le collège, qu'il quitte par un dernier geste d'adieu. On le voit une dernière fois, contraint de suivre les hommes de la Gestapo. Tous savent que la force brutale ne pourra rien contre une âme de cette trempe. Et de cette journée, écrit le père André, sous-directeur, un carme, je garde la vision d'un point culminant où se dresse un père Jacques devenu la vivante image de son idéal. Le don de soi. Réalisé sans exaltation et sans défaillance. C'est le chef de la Gestapo, un moment, qui se retourne vers les élèves, profite pour leur adresser quelques mots de morale. C'est la discipline qui fait les grands pays. Vous, petits Français, ne connaissez pas assez la discipline, mais ça viendra, ça viendra. Il y a un murmure, hein? Et les élèves se révoltent. Puis s'adresse encore le chef de la Gestapo aux élèves. Il dit, le collège a caché des juifs et des réfractaires. Comme les séminaristes, là. Le coupable, votre directeur, a été arrêté. En outre, le collège doit être complètement vidé à 3 heures. Alors, il faut vider tout le collège. Tous les élèves s'en vont. Et puis, le père Jacques sera questionné pour savoir pourquoi il a fait ça. Et vous verrez les réponses, elles sont sublimes. Le père Jacques a donc été arrêté. Un personnage épouvantable, Korf, K-O-R-2-F, le questionne. « Connaissez-vous les lois du Reich ?» Et le père Jacques répond « Je ne les connais pas. Je ne connais qu'une loi, celle de l'Évangile et de la charité. Tout ça a été sténographié. C'est authentique. Il ajoute « Fusillez-moi si vous voulez ». Je n'ai pas peur de mourir, bien au contraire. Ce serait pour moi la plus grande joie. Et plutôt que de tuer des pères de famille, de faire des veuves et des orphelins, prenez-moi et fusillez-moi. Vous ne me faites pas peur et la mort n'est pas pour m'effrayer. Le père Jacques a fait une très grosse impression sur Corfe, qui n'ose pas le toucher. Mais peut-être bien que ce soit père Jacques le seul détenu, dont on a pu dire, fait d'autant plus surprenant que Corfe était extrêmement brutal. Car cet homme donne toutes sortes de coups de poing et de coups de pied à ses prisonniers. Il les fait torturer, puis torture lui-même. On sait qu'il a assassiné de sa propre main, après les avoir fait torturer, 5 religieux oblats de Marie Immaculée au Scholastica de la Brosse-Monceau, près de Montereau, en juillet 1944. Il fait du père Jacques l'éloge suivant. C'est un homme, c'est un homme. Quel homme! Il n'a qu'un seul défaut, c'est de n'être pas nazi. Et on apprend peu de jours après qu'il est à Compiègne. On va le transférer comme ça de camp en camp jusqu'à ce qu'il meure à Linz, en Autriche. Mais d'ici là, quand il arrive au camp à Compiègne, on se moque, les SS se moquent grossièrement du père Jacques qui porte le costume des Carmes. Il y avait dans le camp une aumônerie où tous les prêtres se rassemblaient, couchaient, faisaient leur popote. On voulait que le père Jacques aille coucher là également. Comment faire bande à part? Ah non, ma place était ici, avec et parmi mes camarades. Ça, ça froissait quelques prêtres. Tous les matins, ils pouvaient célébrer la messe quand même. L'abbé Poutrin, qui faisait fonction d'aumônier, prit le père Jacques d'assurer la réunion du soir. Pour la récitation du chapelet, sa prière était déjà un sermon. La chapelle se remplit. On dit qu'avant lui, la vie religieuse du camp était léthargique, mais l'arrivée du père Jacques transforme tout. Le père, qui, faute de chair, parlait debout sur un tabouret, aborde les grands sujets capables de frapper les cœurs et les esprits. Il parle de quoi? De l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, de la chasteté, de l'éducation des enfants. Bientôt, l'assistance déborde hors de la chapelle. En somme, le sujet était très simple, le décalogue. Mais le père Jacques a su tirer des commandements de Dieu, des commentaires. Il faisait de chacun ses commandements, surtout le sixième, un tel enseignement. Presque un système d'éducation, de formation, de résistance, de morale approprié à la fois aux soucis des prisonniers, à leurs besoins, pas à leurs espérances. Il prouvait que la chasteté jusqu'au mariage était possible et souhaitable. Tout ça en réponse à un petit groupe qui tentait de prendre la défense d'un état de mœurs désastreux, dit-on. Il y a des gens qui disaient « Quel saint, quel philosophe, c'est le plus grand prédicateur que j'ai jamais entendu. Un prêtre véritablement apôtre, apôtre du Christ, sans parti pris. Une intelligence vive et très ouverte, un jugement très sûr. Et quelle fierté française !» Alors on envoyait des détenus de temps en temps. Le 27 mars, on vient le chercher, on l'envoie à Sarrebruck. Et là, qu'est-ce qui va arriver à Sarrebruck? Eh bien, dit un dimanche, le commandant SS se promenait avec sa femme et son enfant, petit garçon de 6 ans, il voit ça. Et le petit enfant se mit à jeter des pierres aux malheureux qui tournaient autour du bassin, tandis que ses parents riaient aux éclats parce qu'il lançait des cailloux aux malheureux prisonniers. On l'envoie finalement à Mauthausen, où a été enfermé André Frossard. Et puis là, il était calme, comme d'habitude, très maître de lui. Il dit qu'il ne faut pas tenter Dieu, il faut se soumettre à sa volonté. Ça impressionne beaucoup les prisonniers. Que sert donner à Dieu une chose, dit-il, lorsqu'il en demande une autre? Il rappelle la parole de Saint Jean de la Croix. Que tout se bouleverse, j'y consens de grand cœur. Seigneur mon Dieu, pourvu que nous nous fixions en toi. Le jour de Pâques 45, le père Jacques entre un bloc et puis la ceinture des fils électrisés. Là, il célèbre une messe à 3 reprises, donne la communion aux gens. Il risque sa vie continuellement. Mais l'approche de la délivrance approche, hein, ça se précise, cette approche de la délivrance. Mais la famine est effroyable. On souffre le martyr. Les gens sont comme des cadavres. Et là, au matin du 5 mai, les premiers libérateurs atteignent à l'improviste la porte du camp. Il y a un soulèvement formidable de clameurs. Et le père Jacques était désigné comme président du comité français du camp, mais la libération venait trop tard. Les jours qui ont suivi ont continué leur ravage. Et puis, le père Jacques a dû s'aliter. Et le 9 mai 1945, Madame Crespin de la Susse, qui pénètre dans Mauthausen avec une mission sanitaire, elle dit « La tâche est immense. » Le père Jacques nous apparaît étendu sous une couverture brune. Dans la baraque en bois, il occupe un lit qui fait face à la porte d'entrée, un de ces lits trop fameux où les Allemands couchaient jusqu'à 4 de leurs victimes. Le 10 mai, jour de l'Ascension, le père Jacques reçoit la communion. Il se montre très ému. Ses lèvres se mettent à trembler, le remplissent de larmes. Le 20 mai, dimanche de la Pentecôte, le père Jacques demande l'extrême-onction. Et le 2 juin au matin, il est au plus mal. L'aumônier allemand de l'hôpital lui donne la dernière communion. Et dans la journée, l'abbé Gray lui offre de réciter les prières des agonisants, ce qu'il accepte. Quelques religieux et religieuses prient autour de lui. Et il dit, il murmure, « Pour les derniers instants, je vous en prie, laissez-moi seul. » Ce qu'on a le plus admiré en lui, c'était sa patience inaltérable. Il était un digne fils de Saint Jean de la Croix. On l'a revêtu finalement mort de la bure des Carmes dans la nuit même. Dans l'après-midi du lendemain, 3 juin, on l'a transporté au couvent des Carmes à Linz, en Autriche. Puis on l'a ramené chez lui. Et l'inhumation du père Jacques a eu lieu au cimetière conventuel du Carmel d'Avon, près de Fontainebleau, en France, le 26 juin 1945, où je suis allé prier sur sa tombe il y a déjà 20 ans. Très ému, car j'avais lu sa vie par le père Louis de la Trinité, paru dans les études carmélitaines aux éditions des Clés de Bruyères.